Bonjour Jean-Gilbert, bonjour vos amis, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Lucie, que Dieu vous bénisse. Bonjour la belle-mère, soyez bénis. Bonjour Manon, bonjour au pasteur André, s'il est près de toi. Je ne sais pas si la sœur... la sœur Consuelo est encore chez vous, si elle est, on la salue elle aussi. Donc on est le lundi 15 novembre. Journée pluvieuse. Et journée qui me rend jaloux par rapport à différentes régions. Il neige ailleurs, mais sur Montréal, rien. Malheureusement. J'espère que éventuellement la neige va finir par arriver, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Bonjour Natacha, bonjour Indirène, et bonjour à la petite famille. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Immaculée, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, on débute une série sur le thème la résurrection, un thème qu'on a un peu abordé il y a quelque temps, mais en fait qu'on a abordé il y a quelque temps, mais comme le pasteur Hannibal qui apportait la prédication hier. C'est le thème qu'il a aussi développé, donc on va y aller dans ce sens aussi. Thank you, Pastor David. Enjoy. But I mean, really enjoy big time. And when summer will be there, I'll do the same for you. I'll try to enjoy the hot weather. God bless you. Hope you had a blessed weekend. Bonjour Farley, que Dieu te bénisse. Bonjour à ta maman aussi, la sœur Marie-André. Très content de voir ton sourire, Farley. Alors cette semaine, logiquement, je n'ai pas de journée qui saute. Logiquement, j'ai pas de rendez-vous en matinée cette semaine, donc ou en début de matinée, donc bien content. Logiquement, on devrait avoir nos séances régulières tout au long de cette semaine. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. La sœur Auxilia, la sœur Chantal, la sœur Mona. La belle-mère, il faut en revenir là. Shalom à vous, la belle-mère. Comme d'habitude, la belle-mère doit être contente d'entendre Néma qui boit à grande lampée. Je vais venir chercher son attention pour voir, ça va. Tu dis bonjour aux gens. Attends qu'ils voient ton visage. Ouais, vois ton visage. C'est beau. Ok, coucher. Bonjour Milly. Sois bénie. Très contente de t'avoir avec nous ce matin. J'espère que tu vas bien. Tu embrasses la princesse et le prince de ma part. Une grosse accolade à Vlad quand tu le verras aussi. Puisqu'on n'a pas le droit de faire d'accolade actuellement, donc je passe mes messages par l'épouse. Sois bénie, Milly. Bonjour, Denise. Que Dieu vous bénisse. Vous avez eu un bon temps à l'église hier avec le pasteur Thévenot. Je n'en doute nullement. Soyez bénis. Alors, vous avez encore un petit 5 minutes pour aller vous faire un thé ou un café. Bonjour Thérèse, sois bénie. Milly, à cette heure-ci, les enfants doivent être partis à l'école, je suppose. Bon début de semaine à toi, Guy, que Dieu soit avec toi. Super, Denise. On va vous visiter dans quelques semaines. Ce week-end, j'ai échangé avec le pasteur Thévenot, puis on a planifié quelques visites. Donc, le pasteur Sergio va aller visiter l'église de Deux-Montagnes. Et je vais y aller après aussi. Et je suis en fait en train d'organiser mon calendrier pour cette fin d'année, pour essayer de visiter l'ensemble des églises ici au Québec. Donc Denise, on se voit très bientôt, mais un peu plus tard. Milly, tu es toujours en télétravail? Je pense qu'il y en a quelques-uns même qui sont en télétravail, qui nous écoutent le matin. Je crois que Thérèse aussi, il me semble que tu es en télétravail, non, Thérèse? Donc on vous rappelle, comme ça on n'aura pas le besoin de le faire en début de séance, on vous rappelle, on est lundi, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont déjà redémarré. Donc vous pouvez déjà vous inscrire pour assister au culte de dimanche prochain en présentiel. Dimanche après dimanche, on vient à être un peu plus nombreux ces dernières semaines. Donc on a agrandi notre capacité d'accueil. Puis, on a préparé les choses tout simplement pour vous accueillir un peu plus. Donc, ne tardez pas. Attends, tu es chez Mondou. Qu'est-ce que tu veux dire par tu es chez Mondou? Tu travailles chez Mondou ou tu es à la boutique Mondou? C'est ça, Thérèse. Les gens commencent à reprendre une espèce de formule hybride présentielle et puis en ligne. C'est ce qui est prôné en tout cas par la santé publique dernièrement. Bonjour Sylvie, très heureux de vous avoir avec nous. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Bonjour Denise, bonjour Gérard. J'ai entendu dire que à Val-David ou Val-Morin, il y a bien de la neige. Alors, Est-ce que Gérard est content ce matin? Est-ce que le tapis est blanc dans votre coin? Si c'est le cas, je suis un peu jaloux. Bonjour à ma tante, Tati Vivi. Que Dieu te bénisse. Bonjour Sylvia, God bless you. Autre petit message aussi. Donc, ceux qui ont l'habitude de suivre le cours biblique avec le pasteur André, vous savez qu'hier, le cours n'a pas eu lieu. Le pasteur André avait une urgence, donc il ne pouvait pas être là pour le cours. Donc, ce soir, la rediffusion, bien entendu, il n'y a pas de rediffusion puisqu'on n'a pas enregistré hier. On reprend notre cours normal la semaine prochaine. So good morning from Roxboro. It used to be your neighborhood. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Alors on va prier et après ça je vous explique comment ça se passe pour cette semaine et le passage aussi qui est de mise pour les prochains jours. Alors Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour cette autre semaine qui débute, une semaine qui sera remplie de défis, qui sera remplie de surprises, mais une semaine que l'on sait placer sous le contrôle de ta main toute puissante. Alors on te demande Seigneur d'être avec nous, de nous préparer en toutes choses et surtout Seigneur en ce qui a trait aux bénédictions matinales de nous accorder d'entendre ta voix, de comprendre, Seigneur, ton cœur, de saisir ta pensée, afin, Seigneur, que quoi que nous fassions, nous puissions être au diapason avec ta volonté pour tout un chacun. Alors, j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère. J'appelle ta grâce sur nous tous. Permets-nous, Seigneur, d'être réceptifs à ta parole, d'être pour elle comme un bon terreau dans lequel elle vient s'implanter, elle vient s'enraciner et à travers lequel elle porte un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Alors merci d'être avec nous en toute chose, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, on débute une nouvelle semaine d'enseignement. Cette semaine, on poursuit en fait la prédication du pasteur Hannibal. C'est un sujet qu'on a abordé il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a quelques semaines, on abordait la question de l'importance de la résurrection ou de la prédication de la résurrection. Et on revient un peu sur ce thème-là, puisque la prédication de dimanche avec le pasteur Hannibal, c'était sous la thématique « La résurrection ». Donc, on va étudier un passage cette semaine, essentiellement deux versets qui se trouvent dans Jean au chapitre 11, le verset 20 à 27, Jean 11, 20 à 27. Mais on va essentiellement développer les versets 25 et 26, donc tout au long de cette semaine. Juste pour vous mettre un peu l'historique de ce passage, c'est lorsque Jésus se présente pour la résurrection de Lazare. Lazare est déjà décédé depuis 3 jours. On l'a mis dans le tombeau. Sa sœur va même dire, Marthe va même dire à Jésus que probablement que le corps est déjà en train de sentir puisqu'il a été dans le tombeau pendant X nombre de jours. Donc, Jésus lui fait la déclaration comme quoi son frère va ressusciter. Alors, on prend dans Jean au chapitre 11, le verset 20 à 27, et ce matin, on va étudier particulièrement la première phrase du verset 25. Mais je lis l'ensemble du texte pour vous, juste pour qu'on ait une bonne idée du contexte dans lequel ces paroles sont prononcées. Alors, le verset 20 dans Jean 11 nous dit « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alors je relis pour vous les versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'arrêter aujourd'hui sur le fait que Jésus va proclamer « Je suis la résurrection et la vie ». « Je suis la résurrection et la vie ». Deux termes importants, bien entendu. Résurrection, anastasis, anastasis en grec. Pour ceux qui nous suivent pour une première fois, peut-être simplement vous rappeler que l'Ancien Testament est principalement les manuscrits qu'on a, les quelques manuscrits qu'on a de l'Ancien Testament, nous montrent que le texte a principalement été écrit effectivement en hébreu. Et on se rappelle que l'Ancien Testament, c'est la Bible aussi du peuple juif. Par contre, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, presque son entièreté a été rédigée en grec, à part le livre aux Hébreux, qui est foncièrement écrit en araméen. Donc, pourquoi on revient aujourd'hui à des termes grecs, comme avec le terme « anastasis » ou « résurrection » C'est tout simplement parce que le texte qu'on prend aujourd'hui est dans le Nouveau Testament, donc originellement en grec. Donc, « résurrection »,« anastasis », qui s'écrit « A-N-A-S-T-A-S-I-S ». Je répète, pour ceux qui prennent des notes, « anastasis », « A-N-A-S-T-A-S-I-S ». Qui veut dire se lever d'entre les morts. Anastasis est composé d'un préfixe et d'un suffixe, donc de deux particules au niveau du terme grec. Ana, qui veut toujours dire donc une idée de retour, de reprise, ou quelque chose qui se lève, qui monte vers le haut. Et quand on parle de stasis, on parle de placer une chose debout, de dresser une chose ou d'ériger une chose. Donc, il y a vraiment cette idée dans Anastasis de prendre une chose qui était étendue au sol, qui était couchée au sol et la relever, et ce processus entre le sol jusqu'à ce que la chose ou l'individu soit sur pied. Donc, se relever d'entre les morts. Le terme résurrection. Et le terme « vie », un terme qu'on a déjà étudié aussi, qui est le terme « Zoé ». Alors, pour ceux qui ont appelé leur fille Zoé, sachez que Zoé veut donc dire « vie » en grec, « Z-O-E », pour ceux qui prennent des notes toujours. Et le terme « Zoé »,« vie », va vouloir parler de quelque chose qui a de la vitalité ou quelque chose qui est animé. Donc, on ne parle plus d'un macabé, on ne parle plus d'un corps qui jonche le sol, mais on parle non seulement d'un corps qui a été mis debout, mais qui de surcroît est aussi animé, qui a un souffle de vie à l'intérieur. L'image qu'on a ici, c'est un peu cette image qu'on voit aussi dans la prophétie sur la vallée des ossements. Vous vous rappelez, le prophète Ézéchiel est amené dans le désert et il voit un amoncellement d'os humains qui sont éparpillés sur le sol. Et Dieu va poser la question au prophète en lui demandant, est-ce que ces os revivront? Et le prophète va dire, Seigneur, toi seul le sais. Et Dieu va donc donner l'ordre au prophète de prophétiser sur les eaux. Et lorsque le prophète prophétise pour que les eaux reviennent comme il se doit, on se rend compte qu'il y a un mouvement sur le sol et que les eaux viennent à se réunir les uns avec les autres selon les corps qui devaient être rassemblés. De surcroît à cela, on va voir que la chair, les muscles, les organes vont être créés de nouveau. Mais on se rend compte que ça reste que des corps. Ils ne sont pas animés de vie. Alors à ce moment-là, le Seigneur va encore dire, l'Éternel va encore dire au prophète de prophétiser, et il va appeler les vents qui vont s'emparer du corps et qui vont ramener ces corps inertes à la vie. Donc ici, lorsqu'on parle de Zoé, de la vie, on parle donc de corps qui sont animés, qui sont actifs et qui sont remplis de vitalité. Alors deux termes importants, résurrection et vie. Jésus va dire, je suis la résurrection. En fait, ce qu'il est en train de dire est probablement dans notre oreille francophile, la formule qui serait la plus appropriée, ça serait de soustraire l'article là. Avant résurrection et avant vie, pour avoir une proclamation qui dirait plutôt « Je suis résurrection et vie ». Lorsqu'on parle de la résurrection et la vie, c'est un peu plus diminutif, on dirait. Lorsqu'on parle, si Jésus s'était exprimé, en fait, c'est comme ça que le grec l'amène, il met pas l'article avant résurrection et vie, il va proclamer « Je suis résurrection et vie ». Ça veut donc dire qu'il est l'essence même de la résurrection, qu'il est l'essence même de la vie, et que par conséquent, il en illustre aussi tous les aspects. Alors, si on veut comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il est la résurrection et la vie, on doit comprendre ce que veut dire résurrection et ce que veut dire vie, et tous les aspects, tous les descriptifs. Toutes les connotations qu'on attribue au terme résurrection, ça habite Jésus. Toutes les connotations et toute la portée du terme vie, ça habite aussi, ou elles habitent aussi plutôt, dans la personne de Jésus. Alors Jésus est en train de proclamer à Marthe, regarde, je suis devant toi et je suis celui qui émane ou duquel émane à profusion et à perfection, résurrection et vie. Si Jésus est la résurrection et la vie, ça veut donc dire qu'il était destiné à vivre. Destiné à vivre parce que avant même que toute chose soit créée, il existait déjà. Il va dire à un moment donné, avant qu'Abraham ne soit, j'étais. D'autres versets vont nous dire, avant la fondation du monde, il existait déjà. Et ils vont nous dire que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ça veut donc dire qu'avant même que l'homme existe, avant même que le premier péché soit commis, et avant même que l'homme ait nécessairement besoin d'un sauveur qui prendrait la forme que Jésus a prise, ben, il existait déjà. Il était destiné à vivre. Jésus était appelé à vivre. Jésus était destiné à vivre. Mais j'irai plus loin. Cette même pensée que Jésus devait un jour prendre la forme d'un homme, que Dieu allait un jour prendre la forme d'un homme et qu'il allait marcher ici, ben, sur terre, Dieu fait homme, cette même pensée appartenait existait en Dieu te concernant et me concernant. Au même titre où Jésus, en tant qu'homme, était destiné à vivre, toi et moi, nous ne sommes pas le fruit de la biologie, nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. Nous ne sommes pas le fruit individuellement, même des désirs de nos parents ou de la relation physique stricte d'un homme et d'une femme. Nous sommes la pensée manifestée de Dieu. Ça veut dire que Dieu, dans toute son éternité, pensait à toi. De toute son éternité, il croyait en toi. Il te connaissait et il savait que tel jour, telle année, dans tel millénaire, tu viendrais à exister. C'était son désir, c'était ta destinée d'exister comme créature de Dieu. Donc lorsqu'on dit que Jésus est l'essence de la résurrection, c'est qu'il était destiné à vivre. Il n'était pas destiné à mourir. Et à prime abord, toi et moi, nous n'étions pas plus destinés à mourir. Nous sommes devenus mortels en raison du péché originel d'Adam et Ève. Mais ta destinée et ma destinée restent la même aujourd'hui, celle de vivre éternellement avec Jésus, de vivre éternellement avec Dieu, lorsque nous passons effectivement dans l'éternité. Et cet appel ou cette destinée à la présence de Dieu pour toujours, elle nous a été remanifestée, elle nous a été restituée, elle a été remise de l'avant à travers la mort et la résurrection de Jésus. Jésus, en tant que résurrection, n'était donc pas assujetti à la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le garder dans le tombeau. Il était destiné à vivre et destiné à vivre pour l'éternité. Lorsqu'on parle que Jésus est la résurrection, ça veut donc dire qu'il possédait tout pouvoir pour revenir à la vie. C'est comme si il se présente et le diable dit « je vais te tuer » et Jésus dit « tu peux essayer de me tuer aussi souvent que tu le veux, je vais revenir à la vie. Je reviendrai constamment à la vie, tu ne me retiendras jamais dans le tombeau, je ne serai jamais mort, je serai toujours vivant et vainqueur de la mort. » Donc Jésus possédait le pouvoir de revenir à la vie. Voilà pourquoi il va annoncer même à ses disciples, « on va m'arrêter, on va me mettre à mort. » Le Fils de l'homme va être enseveli pendant 3 jours, puis il va revenir à la vie. Jésus l'a annoncé lorsqu'il revient par la suite sur le chemin d'Emmaüs en accompagnant les 2 disciples qui ont quitté Jérusalem. Jésus va leur parler depuis les prophètes, depuis les Écritures de l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jésus lui-même avait annoncé en disant « mais il fallait que le Fils de l'homme meure et qu'il soit enseveli pendant 3 jours ». Mais il fallait aussi qu'il ressuscite ce 3e jour. Ce qui s'est passé, que les femmes ont dit voir, ce que Pierre a expérimenté au tombeau, c'est effectivement Jésus qui tenait promesse comme quoi il était qu'il n'était pas assujetti à la mort et qu'il avait le pouvoir de revenir à la vie. Il a non seulement le pouvoir de revenir à la vie, mais lorsqu'il dit « je suis la résurrection » et qu'il annonce à Marthe que son frère ressuscitera, c'est donc que Jésus a le pouvoir de ramener à la vie. Et dans tous les sens du terme, il a le pouvoir, lorsque telle est sa volonté, de ramener à la vie physique quelqu'un qui serait mort. Mais plus encore, puisque la mort physique n'est rien comparativement à la mort spirituelle, Jésus est aussi le seul qui peut ramener à la vie quelqu'un qui est mort spirituellement. Donc lorsque Jésus dit qu'il est la résurrection, lorsqu'on comprend qu'il est l'essence même de la résurrection, c'est donc qu'il est destiné à vivre, c'est donc qu'il n'est pas assujetti à la mort, c'est donc qu'il possède le pouvoir de revenir à la vie, qu'il possède aussi le pouvoir de ramener quiconque à la vie. Mais lorsqu'on parle de la résurrection, nécessairement, on doit parler de la mort. La résurrection, c'est donc on parle donc de quelqu'un qui était vivant, qui est tombé dans la mort et qui a été ramené à la vie. Et savons-nous ce qu'est la mort? La mort est la toute première conséquence du péché. Lorsqu'on regarde les premiers textes dans la Genèse, le diable va se présenter devant Adam et Ève et il va dire, est-il vrai que Dieu vous a interdit de manger ce fruit? Et Ève va dire, effectivement, Dieu nous a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin, hormis celui-ci, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc la conséquence première du péché, celui d'Adam et Ève, mais conséquemment de notre péché comme nature qui est nôtre, c'est donc la mort. Et lorsque Jésus est en train de dire « Je suis la résurrection », c'est que Jésus a le pouvoir, l'autorité, la capacité de supplanter le péché et ses conséquences. Voilà pourquoi l'enseignement, et on l'a dit il y a quelques semaines, voilà pourquoi l'enseignement de la résurrection de Christ est la base de la foi chrétienne. Il y a des gens qui annoncent la mort de Jésus sans parler de la résurrection de Jésus. Mais ça, c'est juste le travail fait à moitié. Parce que si Jésus meurt, mais il ne ressuscite pas, il ne supplante pas la mort, il ne supplante pas le péché et il ne supplante pas les conséquences du péché. Voilà pourquoi on ne peut pas strictement parler que de la mort de Jésus. Lorsqu'on proclame la mort de Jésus, on doit aussi proclamer sa résurrection. L'un ne va pas sans l'autre. L'action de la mort de Jésus, c'était le paiement dû à notre iniquité et à notre péché. La résurrection de Jésus, c'est la victoire de Jésus sur la mort, sur le péché, victoire qu'il désire partager avec ses enfants, avec tout pécheur repentant. Donc voilà pourquoi il est tellement important de parler de la résurrection. Parce que la résurrection est le sceau de la victoire de Jésus, de la victoire de Dieu sur le péché, sur la mort qui en est sa conséquence première. Donc Jésus, lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », il est en train de dire « Je supplante le péché, je supplante les conséquences du péché dont la pire était la mort et la mort éternelle. Je supplante celui qui a été le tentateur qui vous a amené dans l'iniquité et dans le péché, et cette victoire, cette supplantation de la mort, du péché et de ses conséquences, je partage cette victoire avec vous tous. Il est important, mon frère, il est important, mon ami, de revenir à la question de la résurrection. Lorsque Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie », il annonce la chose la plus glorieuse, la plus grandiose de l'histoire de l'humanité. La chose la plus misérable et malheureuse de l'histoire, c'était Adam et Ève qui pêchent et qui initient cette flétrissure, qui initient ce processus de dégradation perpétuelle qu'a entraîné le péché. Lorsque Jésus proclame « Je suis la résurrection », il est en train de dire « Je mets un terme au pouvoir du péché. Je mets un terme aux conséquences du péché. Et toute personne qui croira en moi, toute personne qui viendra en moi, toute personne qui se placera sous la protection de ma personne, cette personne sera exempte de la mort et du péché et de la conséquence du péché. Lorsque nous proclamons que Jésus est effectivement la résurrection, nous proclamons qu'il a supplanté le péché et ses conséquences. Et ça, c'est le plus grand, le plus merveilleux, le plus grandiose des messages que nous pouvons partager. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut donc dire qu'il est non seulement l'essence de la résurrection et de tout ce que ça comporte, mais il est aussi l'essence même de la vie et de tout ce que ça comporte. Lorsque Jésus dit je suis la vie, c'est donc, il est donc en train de dire, je suis bien, bel et bien vivant. Et notre Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est ressuscité, est donc encore aujourd'hui bel et bien vivant. Savez-vous, il y avait déjà eu des gens qui avaient été ramenés à la vie. Il y avait déjà eu des ressuscités. Mais Jésus, dans son cas, était le premier et l'unique. Pourquoi? Parce que tous les autres qui avaient été ressuscités, dont Lazare, que Jésus, dans ce passage, s'apprête à ressusciter, tous les autres ont connu la mort. Tous les autres sont morts de nouveau. Lazare n'a pas fini vivant pour l'éternité. Lazare est mort, puis effectivement, en tant que croyant, il va ressusciter. Mais Lazare a une deuxième mort. Comme toi et moi, à moins que Jésus ne vienne nous chercher avant notre mort physique, mais nous connaîtrons la mort. Tous les ressuscités avant Jésus ont malgré tout connu la mort par la suite. Jésus est le seul qui a connu la mort, qui l'a vaincu et qui est resté vivant pour l'éternité. Alors lorsqu'il dit « Je suis la vie », c'est qu'il était la vie avant sa mort, il était la vie pendant sa résurrection et il est la vie après cette résurrection. Donc Jésus est encore aujourd'hui bel et bien vivant. Et on a vu ce que voulait dire Zoé tout à l'heure. Ça voulait dire quelque chose qui a de la vitalité et quelque chose qui est animé. Notre Jésus, ce n'est pas ce Jésus qu'on voit sur un crucifix qui ne bouge pas. Ce n'est pas ce Jésus qu'on a enrubanné, qu'on a mis dans un sépulcre. Notre Jésus est sorti vainqueur du tombeau. Notre Jésus est encore vivant aujourd'hui et notre Jésus est vivant pour l'éternité. Notre Jésus a gagné contre la mort, n'a jamais reperdu devant la mort. En fait, il a jamais perdu, mais par la suite, il n'a pas connu une deuxième mort. Notre Jésus est vivant, toujours vivant, constamment vivant, éternellement vivant. Et lorsque je proclame Jésus, je suis en train de proclamer un Dieu qui est pleinement, totalement vivant, avec toutes les facultés de quelqu'un qui est totalement vivant. Ça veut dire que mon Jésus travaille encore aujourd'hui. Jésus va dire quelque temps avant sa mort, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Notre Jésus agit encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il ne se tourne pas les pouces. Il n'est pas en train d'attendre que le diable soit précipité dans l'enfer et que finalement on soit libéré du joug du péché. Non, notre Jésus est toujours permanemment vivant, éternellement vivant, toujours actif. Ça veut dire que mon Jésus travaille encore aujourd'hui. Mais plus beau encore que cela, Jésus est la vie. Il est vivant. De lui émanent aussi des choses qui sont vivantes. Jésus est la source de vie. La seule source de vie parfaite et excellente. Jésus donne encore la vie aujourd'hui. La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Nous étions morts par nos offenses et notre péché. Jésus nous ramène à la vie. Jésus nous ramène à ce stade qu'avait l'homme avant le péché initial. Ce stade dans lequel nous avons communion. Cet état dans lequel nous sommes connectés avec Dieu. Jésus nous ramène à cet état initial pour lequel Dieu pensait à nous, pour lequel il voulait voir notre existence. Dieu nous ramène à la vie à travers la mort, la résurrection de Jésus. Et parce que Jésus est vivant et qu'il est la source de vie encore aujourd'hui. Ça veut dire que ce Jésus qui habite en toi, Paul va dire à un moment donné, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour toi et moi, ça peut être la même chose. Christ qui vit en nous. Alors si Christ vit en nous, cette vie doit aussi être vécue comme Christ la vivrait, comme Christ veut la vivre. Voilà pourquoi, étant revenu à Dieu, voilà pourquoi, étant restauré par la résurrection de Jésus, nous devons aussi maintenant vivre conséquemment à cette nouvelle vie qui nous est donnée. Voyez, on est un peu comme celui qui s'apprête, qui vit sa vie un peu comme il le veut pendant des années, puis qui expérimente une grave maladie ou un grave accident qui l'amène au bord de la mort. Et très souvent, quelqu'un qui expérimente cela va dire « Si je peux revenir à la vie, je ferai les choses différemment. Si je peux être maintenu en vie, je ferai les choses différemment. » Christ étant venu à nous, nous ayant ramenés à la vie, faisons les choses différemment. Nous avons aujourd'hui quoi? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour les plus jeunes, 70 ans pour ceux qui sont encore plus jeunes, à vivre. Pouvons-nous, à partir de ce moment où nous venons de rencontrer Jésus, où nous saisissons que nous avons une deuxième chance à la vie, une deuxième opportunité à la vie, pouvons-nous faire en sorte que Christ qui vit en nous puisse pleinement apprécier la vie que nous menons? Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. Je ne veux pas terminer sans te rappeler des choses essentielles. Nous sommes tous pécheurs. Et par notre statut de pécheur, on est privé de la gloire de Dieu. Nous sommes morts à cause de nos offenses et de nos péchés. Mais Dieu a toujours eu à cœur, sachant ce qui allait se passer avec l'humanité avant même que nous n'existions, il avait déjà pourvu celui qui serait la résurrection et la vie pour nous tous. Christ, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Comme va dire Marthe, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir, le Messie, le seul qui pouvait remplir tout ce qui était à faire pour amener la résurrection et la vie. Christ est mort pour ton péché. Christ a payé le prix de ton salut. Et aujourd'hui, ce salut t'est offert gratuitement par celui qui est mort en raison de ton péché et pour ton péché. Il a payé le prix. Et aujourd'hui, la question c'est, que vas-tu faire avec le salut que Jésus t'offre? Je te rappellerai que le péché est venu parce que nous avons été désobéissants envers Dieu. Nous avons enfreint les règles de vie qui étaient celles de l'homme avec Dieu avant le péché initial. Lorsque Dieu nous ramène à la vie, il nous ramène à cet état de soumission parfait, mais cet état aussi de soumission tout à fait enviable que nous avions envers Dieu avant le péché initial. Dieu nous ramène à cet état de communion profonde avec lui à travers la mort et la résurrection de son Fils Jésus. La question pour toi et pour moi, mon ami, que ferais-je de la mort et de la résurrection de Jésus? On veut, plusieurs d'entre nous, en fait, nous tous, nous voudrions avoir la rémission de nos fautes, le pardon de nos péchés, mais le pardon de nos péchés n'est rien si nous ne revenons pas à cette soumission envers le Seigneur. Si nous ne revenons pas à cet état qui était le nôtre avant le péché initial, ou sachant que tout ce que Dieu faisait était parfait, connaissant la grâce, l'amour, la bonté, la générosité de notre Dieu, nous vivions dans la félicité permanente. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais pour ce faire, nous devons changer notre mode d'opération, revenir à celui qui était le nôtre avant, où j'ai dit « Seigneur, je reçois ton pardon, je reçois ton salut et je soumets ma vie à ta Seigneurie. Tu es mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur. Aide-moi à marcher fidèlement devant toi. Alors permettez-moi de prier avec vous. Et si tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur, je t'inviterai à prier ces quelques mots à ma suite. Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je comprends qu'en raison de mon péché, je suis mort, privé d'accès à ta présence. Mais en raison de ta parole aujourd'hui, je comprends aussi que Jésus est la résurrection et la vie. Il est mort et ressuscité pour un pécheur comme moi, pour le pardon de mes fautes, de mon iniquité, de mon péché. Ce matin, je reçois ton pardon. Et ce matin, je soumets ma vie à ta Seigneurie. Je reviens à la vie à laquelle tu me destinais. Une vie dans la paix avec Dieu, une vie dans l'approbation de Dieu, une vie dans la félicité de Dieu, une vie dans la soumission à Dieu. Aujourd'hui, je proclame que sur ma vie, tu es mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur. Parce que tu es mort et ressuscité, je peux aujourd'hui avoir la vie éternelle. Jésus, je proclame devant les hommes, devant les autorités spirituelles, que je soumets ma vie à ta Seigneurie. Sois mon Sauveur, sois aussi mon Seigneur. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je prie que vous soyez bénis. On se retrouve demain. Je vous rappelle, aujourd'hui, il n'y a pas de cours biblique avec le pasteur André. On enregistre cela habituellement le dimanche, mais hier, il avait une obligation à l'extérieur. Donc, pas de cours ce soir. On se retrouve simplement demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Et on vous rappelle, ne tardez pas, c'est déjà le temps de vous inscrire pour le culte de dimanche. Sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Bonne journée à tous.